Imaginons la scène en instant. C'est un de ces fameux dimanches après-midi de novembre, genre de journée bien grise.
Voilà, exactement.
Et là, on a un enfant d'environ 4 ans qui a le nez, mais littéralement collé à la vitre du salon et qui regarde dehors.
Et il pleut des cordes, j'imagine.
Ah, un vrai déluge. Le ciel est d'un gris impénétrable. Et on peut lire une immense déception sur son visage. Et là, bah, le premier réflexe quand on s'occupe d'enfants, c'est presque automatique et très humain, hein, on va pas se mentir, c'est d'aller chercher la grande boîte de Lego.
Ouais, ou d'allumer la télé.
C'est ça. On dégaine la tablette tactile pour sauver l'après-midi. Parce que l'idée même de mettre un pied dehors dans cette gadouille, ça semble complètement absurde.
Absolument.
Mais, et c'est là que ça devient intéressant, que se passerait-il si on inversait totalement cette logique? Si, en fait, la pluie n'était pas un signal d'enfermement, mais au contraire, une invitation à l'aventure?
C'est une excellente question.
Et c'est exactement la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va décortiquer les idées d'un article qui est vraiment très instructif, qui a été publié en 2026 sur le blog WeFam, et qui s'intitule « Jouer sous la pluie, 7 équipements indispensables
».
Le but, bah, c'est de comprendre pourquoi cette météo un peu capricieuse n'est pas l'ennemi du jeu et d'analyser comment équiper les plus jeunes sans que la sortie ne tourne au cauchemar frigorifique.
Bah écoute, je suis ravie d'en parler parce que c'est un point de départ fascinant. L'enjeu ici, il dépasse de très loin la simple question de savoir quel manteau acheter dans un magasin.
Ah oui, c'est pas juste un guide d'achat.
Non, pas du tout. Il y a une véritable dimension psychologique et physiologique en jeu. En fait, les sources qu'on analyse aujourd'hui mettent en lumière le fait que jouer sous la pluie, c'est avant toute chose une expérience sensorielle d'une richesse inouïe.
D'accord, donc c'est pas juste se salir pour se salir.
Voilà. Si on compare, la tablette tactile offre une surface qui est lisse, qui est stérile, alors qu'une averse, bah, ça propose un festival pour les sens.
C'est joliment dit, un festival pour les sens, c'est-à-dire?
Bah, on parle du bruit hyper spécifique des gouttes qui percutent une capuche, de la sensation physique, de l'eau froide sur les mains, tu vois, et même des couleurs de la nature qui deviennent soudainement beaucoup plus saturées avec l'humidité.
Ouais, c'est vrai, les verts sont plus verts, les marrons plus profonds.
Exactement. Et bien sûr, il y a cette odeur inimitable de terre mouillée, ce qu'on appelle le pétrichor.
Le pétrichor, ouais. C'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier à quel point le monde change quand il pleut.
Complètement.
Mais au-delà de la poésie de la flaque d'eau, est-ce qu'il y a de vrais arguments, j'allais dire scientifiques, pour justifier de sortir par un temps pareil?
Ah bah absolument. Les données qui sont compilées dans cette publication, elles prouvent que le jeu en extérieur, et ça par absolument tous les temps, ça apporte des bénéfices tangibles sur le développement de l'enfant.
C'est mesurable.
Très mesurable. D'abord, d'un point de vue physiologique, ça renforce le système immunitaire.
Ah, donc l'idée qu'on attrape un rhume juste parce qu'il pleut?
C'est un mythe. En fait, c'est l'exposition à la diversité microbienne dehors qui aide. Et ensuite, d'un point de vue mental, ça forge la résilience psychologique.
D'accord.
Et sur le plan cognitif, ça stimule la créativité d'une manière qu'un environnement intérieur ultra contrôlé ne pourra jamais égaler. C'est une vraie leçon de choses grandeur nature.
Oui, on s'adapte à ce qui se passe.
C'est ça, sauter dans une flaque d'eau sans glisser ou même juste évaluer la profondeur de la boue avant d'y mettre le pied.
Ce qui n'est pas toujours évident, même pour un adulte.
Non, voilà, tout ça, ça exige une coordination et un développement moteur bien supérieur au simple fait de tapoter sur un écran. L'enfant apprend à s'adapter à un environnement qui est mouvant et imprévisible.
Bon, alors l'argumentaire est solide. Franchement, dit comme ça, on a envie d'ouvrir la porte et de courir sous l'orage.
Ouais.
Mais bon, on sait très bien comment ça se termine si on sort en jean et en basket.
Ah bah, c'est la catastrophe assurée.
Exactement. 10 minutes plus tard, c'est la crise de larmes parce qu'on est gelé jusqu'aux os. Donc tout ce concept de résilience et de jeu, ça repose sur une condition incontournable. C'est l'équipement.
C'est le nerf de la guerre.
Et c'est là que l'article prend vraiment des airs de manuel de logistique. Du coup, commençons par la première ligne de défense, le fameux manteau de pluie. L'article insiste lourdement sur le fait que cette pièce-là, à elle seule, elle conditionne 80% du confort de la sortie. Et d'ailleurs, il faut apparemment dire adieu aux vieux Kéouais de notre propre enfance.
Ah, ces fameux Kéouais.
On a tous en mémoire ces coupe-vents en plastique ultra fin qu'on roulait en boule dans une petite poche banane. Ça agissait comme de véritables saunas portatifs.
C'est exactement ça, oui. Et le problème de ces vieux imperméables, c'est qu'on finissait complètement trempés, mais pas par la pluie extérieure.
Ben non, par notre propre sueur.
Voilà, par la condensation intérieure. C'était l'enfer. Mais aujourd'hui, la science des matériaux a considérablement évolué. Et si on se penche sur les critères techniques qui sont présentés dans l'article, il y a une unité de mesure incontournable qu'il faut retenir.
Vas-y, dis-moi tout.
C'est la colonne d'eau. Et ça s'exprime en Schmerber.
Attends, une colonne d'eau en Schmerber?
Ouais.
Ça sonne vraiment comme une unité de mesure inventée pour, un cours de physique quantique. Comment est-ce qu'on peut visualiser ça de manière concrète quand on se retrouve au rayon enfant dans un magasin?
C'est vrai que le terme fut très technique. Mais pour faire simple, imaginons un long tube en verre qu'on pose verticalement sur un morceau de tissu bien tendu.
Ok, je visualise le tube.
Eh bien, on remplit ce tube d'eau. Et le nombre Schmerber, ça correspond à la hauteur d'eau en millimètres que l'on peut verser dans le tube avant que la toute première goutte ne traverse le tissu.
Ah d'accord, c'est très visuel.
N'est-ce pas? L'auteur de l'article explique qu'un indice de 5000 mm, donc 5000 Schmerber, c'est vraiment le strict minimum pour que le vêtement soit considéré comme protecteur face à, disons, une petite averse.
Donc 5000 mm, ça fait un tube de 5 mètres de haut, rempli d'eau, avant que ça ne fuit.
Exactement.
Ça semble déjà énorme pour un bout de tissu.
Ça l'est en théorie, oui. Mais en pratique, il faut prendre en compte la pression exercée par le vent, ou pire, par un enfant qui tombe brutalement à genoux dans une flaque.
Ah oui, l'impact force l'eau à passer.
C'est ça, la pression force l'eau à pénétrer les fibres. C'est pourquoi, pour avoir la certitude absolue de rester au sec même sous un déluge prolongé, l'article recommande de viser carrément les 10 000 mm.
Les fameux 10 000 Schmerber.
Voilà. Mais attention, l'imperméabilité seule, ça nous ramène direct au problème du sauna portatif dont on parlait.
Oui, l'effet sac poubelle.
Tout à fait. Et c'est là que la respirabilité entre en jeu. C'est un point vital. Un enfant qui court, qui saute, qui s'agite dehors, ça produit une quantité phénoménale de chaleur.
C'est des petites chaudières sur pattes.
Exactement. Donc, si la membrane du tissu ne permet pas d'évacuer la vapeur d'eau qui est générée par le corps, la transpiration s'accumule. Et le résultat est implacable.
L'enfant finit trempé de l'intérieur.
Trempé de sueur, oui. Et il attrape froid à la seconde où il s'arrête de bouger.
C'est tout le paradoxe de la pluie, en fait. Il faut bloquer l'eau de l'extérieur de manière impénétrable, mais il faut laisser sortir l'eau de l'intérieur.
C'est une technologie de pointe.
Et d'ailleurs, l'article mentionne aussi des détails structurels sur ces manteaux, qui font toute la différence, comme les coutures, par exemple.
Ah oui, les coutures, c'est crucial.
Parce que si on a un tissu incroyable à 10 000 Schmerber, mais qu'on a des coutures classiques, l'eau va juste s'infiltrer par les petits trous laissés par l'aiguille de la machine à coudre, non?
C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier sur l'étiquette que les coutures sont dites thermosoudées ou étanchées.
Ça ressemble à quoi?
En gros, c'est une fine bande imperméable qui est collée à chaud sur la couture, mais à l'intérieur du vêtement. Comme ça, aucun trou n'est exposé.
Malin.
Très malin. Et un autre détail crucial relevé dans le texte, ça concerne la capuche. Elle doit être super bien ajustée et idéalement équipée d'une petite visière semi-rigide sur le devant.
Une visière? C'est pour le style ou il y a une vraie fonction derrière ça?
Oh, il y a une fonction de sécurité primordiale. Sans cette visière, dès qu'il y a du vent, la capuche a tendance à s'affaisser sur les yeux de l'enfant. Ou alors elle tourne complètement quand il tourne la tête.
Ah oui, on ne voit plus rien. L'enfant est coincé dans sa capuche.
Voilà. Ça réduit considérablement son champ de vision. Et c'est extrêmement dangereux s'il y a des obstacles sur le chemin ou des véhicules à proximité. La visière, elle maintient la structure et, en bonus, elle protège le visage des gouttes directes.
Bon, là, je crois que le haut du corps est blindé. On est paré pour l'ouragan.
On est pas mal.
Mais passons à ce que j'appellerais le grand oublié de la garde-robe pluvieuse. On se focalise tellement sur le manteau qu'on néglige complètement les jambes.
C'est très fréquent, oui.
Pourtant, l'article met particulièrement en valeur le pantalon de pluie. Et c'est vrai que si on y réfléchit deux secondes, sans pantalon imperméable, c'est strictement impossible de s'asseoir dans l'herbe mouillée pour observer un escargot.
Ou de s'accroupir sans finir avec un jean glacé collé au mollet.
L'horreur. Donc le pantalon, c'est incontournable.
C'est la clé de voûte de toute la tenue. L'article propose d'ailleurs de choisir entre deux options qui sont très distinctes.
Lesquelles?
La première, c'est le surpantalon classique. Son grand avantage, c'est vraiment sa polyvalence. C'est super léger, ça se roule en boule au fond d'un sac à dos et ça s'enfile rapidement par-dessus la tenue du jour de l'enfant.
Pratique.
Et une astuce précieuse partagée dans le texte, c'est de privilégier les modèles qui ont des ouvertures zippées sur les côtés ou au niveau des chevilles.
Ah, j'imagine que c'est pour éviter la fameuse séance de lutte gréco-romaine.
Laquelle?
Celle où on essaye désespérément de faire passer des chaussures déjà sales et bien mouillées dans un tube en tissu beaucoup trop étroit pour elles.
Ah, ben oui, c'est tout à fait ça. Les zips, ça permet d'enfiler le pantalon sans avoir à retirer les chaussures, ce qui évite, au passage, de salir les chaussettes en essayant de tenir en équilibre sur un seul pied dans la boue.
C'est du vécu, ça s'entend.
Totalement. Et la seconde option, qui est vraiment recommandée comme le choix ultime pour les tout-petits, c'est la salopette de pluie.
La salopette, avec les bretelles.
Exactement. Comme elle monte très haut sur le torse et dans le dos, elle crée une barrière quasi infranchissable, même lors de glissades monumentales sur les fesses ou de galipettes acrobatiques dans la gadoue.
Rien ne rentre.
Rien ne rentre. En plus, les bretelles sont réglables, ce qui permet d'accompagner la croissance de l'enfant sur plusieurs saisons. D'ailleurs, il y a une citation dans l'article qui résume toute cette philosophie. L'auteur dit « Un enfant bien équipé dehors est un parent serein dedans ».
Un parent serein dedans, c'est vraiment le Graal, c'est le but recherché.
C'est clair.
Bon, on a le bouclier pour le haut, on a l'armure pour les jambes, mais que serait une vraie expédition sous la pluie sans l'accessoire le plus iconique de l'enfance ?
Je vois très bien de quoi tu parles.
Les fameuses bottes de pluie. On a souvent tendance à se diriger vers les modèles les plus colorés en magasin, tu sais, ceux avec des têtes de dinosaures ou plein de paillettes.
Oui, ça attire l'œil.
Mais j'imagine que les critères de choix vont bien au-delà de l'esthétique.
Disons que l'esthétique, c'est un bonus. Mais si on connecte vraiment cet accessoire aux impératifs du développement moteur de l'enfant, le matériau de la botte, c'est le premier critère à scruter à la loupe.
D'accord.
Le guide qu'on analyse, d'ailleurs, déconseille très fortement le plastique PVC classique.
Le plastique de base, quoi. Pourquoi ?
Parce qu'il est souvent très raide et très lourd. Le secret d'une bonne botte, c'est le caoutchouc naturel.
Le caoutchouc naturel, c'est plus cher, non ?
Bien que l'investissement initial soit légèrement supérieur, oui, le caoutchouc naturel offre une souplesse qui est juste incomparable. Ça accompagne le déroulé du pied de l'enfant au lieu de le bloquer.
Et ça, c'est important pour des petits pieds en croissance.
C'est même crucial pour des enfants dont la voûte plantaire est en plein développement.
C'est vrai qu'on a tous déjà vu des enfants marcher un peu comme des robots, avec des bottes en plastique beaucoup trop rigides.
C'est exactement l'effet PVC.
Et pour la semelle, j'imagine qu'on ne cherche pas un profil tout lisse pour marcher dans la boue ?
Non. Surtout pas. La sécurité avant tout. La semelle, elle doit être épaisse et surtout très profondément crantée. Un peu comme une vraie chaussure de randonnée.
Pour l'adhérence.
Voilà. Les feuilles mortes mouillées sur le trottoir ou les plaques de boue dans la forêt, ce sont de vraies patinoires naturelles. Un bon crantage, ça prévient les glissades dangereuses.
Et au niveau de la hauteur de la botte, il y a une règle à...
Oui, il faut viser juste en dessous du genou.
Pas plus haut ?
Non, parce que si c'est trop bas, l'eau rentre par le dessus au premier saut un peu enthousiaste dans une flaque profonde. Mais si c'est trop haut, ça vient frotter derrière le genou et ça entrave complètement la flexion de la jambe de l'enfant.
D'accord, un juste milieu. Et il y a un détail qui m'a particulièrement interpellé dans la source concernant les bottes pour l'hiver. Le réflexe naturel qu'on a tous, ce serait d'acheter des bottes directement fourrées.
Les fameuses bottes avec la moumoute.
Oui, bien chaudes, avec de la moumoute à l'intérieur. Pourtant, l'article déconseille fermement cette option. Pourquoi est-ce qu'on se priverait de cette chaleur intégrée alors qu'il fait 0 degré dehors ?
Pour une raison de pure modularité. Des bottes fourrées, c'est fantastique en plein mois de décembre, c'est sûr. Mais elles deviennent de véritables fours dès que les premières pluies de printemps arrivent, disons en avril.
Ah oui, l'enfant a les pieds qui cuisent.
Exactement. En optant pour des bottes non doublées, on investit dans un équipement qui est utilisable 12 mois par an.
Ok, mais du coup, on gère le froid comment en hiver ?
La chaleur ne viendra pas de la botte en elle-même, mais de ce qu'on mettra dedans. On ajuste simplement l'épaisseur des chaussettes selon la saison. C'est beaucoup plus malin.
Et ça nous amène très naturellement au concept le plus fondamental de l'habillement outdoor. C'est vraiment l'une des parties les plus instructives de notre analyse. La fameuse technique de l'oignon.
Le layering, oui.
Le layering. Et là, il faut absolument déconstruire un mythe redoutable. L'image d'Épinal qu'on a tous en tête.
Le petit marin breton.
Exactement. Le petit marin avec son immense pull en grosse laine, tricoté par mamie, enfilé directement sous son ciré jaune. Ça, c'est apparemment une erreur tactique majeure.
C'est même un contresens thermique absolu.
Ah oui, à ce point.
Oui. Le gros problème d'un vêtement très épais et unique, sous une couche imperméable, c'est qu'il ne permet absolument aucune régulation.
D'accord.
Si l'enfant court, il transpire. Le gros pull va absorber toute cette humidité, il devient super lourd et il se transforme littéralement en une compresse froide et humide sur la peau de l'enfant.
L'horreur.
L'art de la superposition, la technique de l'oignon, c'est de la thermodynamique appliquée. Ça se décompose en trois couches distinctes et chacune a une mission extrêmement précise.
Ok, détaillons cette stratégie de guerre thermique. La couche numéro 1, c'est celle qui est directement en contact avec la peau.
J'imagine qu'on prend le bon vieux t-shirt en coton de tous les jours, c'est ça?
Surtout pas.
Surtout pas?
Non. C'est vraiment l'erreur la plus commune. Le coton, c'est une fibre qui retient l'eau comme une éponge et qui met énormément de temps à sécher.
Ah, donc on reste mouillé.
Voilà. L'auteur de l'article insiste lourdement là-dessus. Il faut bannir le coton pour la première couche. Le rôle de cette base, c'est d'évacuer la transpiration pour garder la peau parfaitement au sec.
Donc, on met quoi à la place?
Il faut privilégier un sous-vêtement technique en matière synthétique ou, mieux encore, le Neck Plus Ultra, la laine Mérinos.
La laine Mérinos, ok. Donc, exit le coton. Ensuite, on passe à la couche 2. C'est l'isolation. C'est là qu'on apporte la vraie chaleur.
Exactement. L'objectif de la couche 2, c'est de capturer et d'emprisonner l'air chaud généré par le corps.
Un peu comme un thermos.
C'est l'idée. Une polaire classique ou une doudoune très fine font parfaitement l'affaire ici.
Et pourquoi pas le gros pull en laine du coup?
Parce que l'énorme avantage de cette couche intermédiaire fine, c'est sa flexibilité. Si l'enfant a soudainement trop chaud en plein milieu de son activité, ben on ouvre le manteau, on retire la polaire, on la glisse facilement dans un sac à dos et on remet juste le manteau imperméable par-dessus la couche 1.
Modulable à l'infini.
Voilà.
Et enfin, la fameuse couche 3. C'est le bouclier. Ce fameux manteau à 10 000 Schmerber dont on parlait au tout début, qui vient couper le vent et repousser l'eau de pluie.
C'est ça, c'est la carapace.
C'est vraiment un système totalement logique et modulaire. Alors on a géré le tronc, on a géré les jambes avec la salopette, mais qu'en est-il des extrémités? Parce qu'on le sait, quand on est parent ou qu'on s'occupe de petits, des mains froides, c'est la cause numéro 1 des retours précipités à la maison, dans une cacophonie de pleurs en général.
À ça, les extrémités, ce sont souvent les zones de déperdition de chaleur les plus rapides. Et l'équipement technique de pointe sur le corps ne sert strictement à rien si les doigts de l'enfant sont engourdis par le froid.
Donc, on met des petits gants en laine?
Sûrement pas. Les gants classiques en laine ou en tissu polaire, ils se gorgent d'eau en 2 minutes chrono dès que l'enfant touche un brin d'air mouillé.
Logique. Et on ne peut pas les empêcher de toucher par terre.
C'est le but de la sortie en même temps, hein. Donc, l'article liste des accessoires vitaux. D'abord, des gants de pluie spécifiques. Ils sont généralement conçus en caoutchouc très fin ou en néoprène, un peu comme pour les combinaisons de plongée sous-marine.
Ah ouais, carrément du néoprène pour aller au parc.
Bah oui, parce que ça garde la chaleur corporelle, même quand c'est mouillé.
Et pour la tête? Le manteau à une capuche, ça suffit pas.
On mentionne également l'importance d'une fine cagoule qu'on glisse sous la capuche du manteau. Ça permet d'éviter les mauvais courants d'air froids dans le cou.
Et pour les pieds, dans les bottes non doublées?
On revient à cette matière exceptionnelle dont on parlait, des chaussettes en laine Mérinos. Contrairement au coton, la laine a la propriété quasi magique de continuer à isoler du froid, même lorsqu'elle est trempée.
D'accord. La laine Mérinos, c'est vraiment la superstar de cette analyse. On voit bien que chaque détail compte pour le confort. Mais il y a un aspect de l'article qui bascule du confort vers un sujet beaucoup plus sérieux. C'est la sécurité environnementale.
Oui, c'est un point majeur.
Parce qu'un jour de pluie, c'est par définition un jour où la couverture nuageuse est dense. C'est gris, c'est très sombre. On n'habille pas un enfant pour aller jouer dans les bois mouillés en novembre comme on l'habille pour aller à la plage en plein mois d'août.
Non, clairement. La visibilité, c'est effectivement un impératif non négociable. Sous la forte pluie, la lumière décline drastiquement et l'attention des conducteurs ou des cyclistes aux alentours est souvent accaparée par la gestion de leur propre vision altérée.
Ils ont les essuie-glaces à fond, ils voient rien.
Exactement. L'article insiste donc sur l'obligation absolue de choisir des couleurs très vives pour cet équipement de pluie.
Le ciré jaune revient en force.
Voilà, du jaune canari, du rouge pompier, de l'orange fluorescent. Il faut fuir à tout prix les tons bleu marine ou les manteaux noirs ou kaki qui se fondent immédiatement dans le décor urbain ou naturel par temps gris.
Et il y a aussi la question de la nuit qui tombe tôt en hiver.
Absolument. De plus, la présence de bandes réfléchissantes de haute qualité sur le manteau, sur le pantalon et même sur les bottes, c'est qualifié de critère essentiel pour être repéré de très loin dès qu'une source de lumière comme un phare de voiture s'approche.
C'est vrai qu'un petit point réfléchissant, ça sauve des vies. Mais au-delà de cet équipement que j'appellerais passif, l'auteur aborde aussi le comportement actif de l'enfant. L'armure en Schmerber, ça ne rend pas invincible.
Non, ça ne dispense pas d'éducation.
Il faut instaurer des règles avant même de franchir le pas de la porte. Par exemple, sauter dans une grosse flaque, bon, c'est le but du jeu. Mais boire l'eau de la flaque parce qu'on a un peu soif ?
Oh, ça, c'est un point sur lequel la prévention est primordiale. L'eau stagnante urbaine, elle est chargée de polluants, d'hydrocarbures, de bactéries en tout genre.
C'est un cocktail toxique.
Complètement. Et l'éducation à l'environnement, bah, ça passe par la verbalisation de ces dangers. Il faut expliquer à l'enfant que le sol devient très glissant, que les plaques d'égout en métal en ville sont de vraies patinoires et surtout que l'eau au Saône ne se consomme jamais.
Jamais, sous aucun prétexte.
Exactement. Et ce besoin global de sécurité et d'anticipation, il est d'ailleurs illustré par une recommandation très intéressante dans le texte de WIFAM.
Ah oui, le kit d'urgence.
Oui, la source propose un outil qui est appelé Kit Urgence Famille Premium. Ça rassemble 9 documents divers pour faire face aux aléas de la vie.
Bon, ça fait très administratif.
C'est vrai, mais indépendamment du produit lui-même, ça démontre bien que la gestion de la sécurité familiale, surtout lors d'activités un peu atypiques, comme une sortie sous la pluie battante, ben, ça exige une approche holistique où on ne laisse vraiment rien au hasard.
La logistique semble être le maître mot de tout ça, ce qui nous amène à la redoutable phase de retour à la maison.
Ah, le moment critique.
Mission accomplie, on a bravé la tempête, l'enfant a collecté des cailloux mouillés, et on rentre. Mais alors, les vêtements sont couverts de boue de la tête aux pieds. Le réflexe immédiat pour quiconque voit ça, c'est de tout jeter dans le tambour de la machine à laver sur un cycle intensif à 60 degrés pour s'en débarrasser au plus vite.
Or fatal.
L'article révèle que c'est le meilleur moyen de ruiner son investissement à 10 000 Schmerber dès le premier jour, n'est-ce pas ?
Oui, le lavage en machine intensive, c'est vraiment l'ennemi juré des vêtements techniques. Ça détruit totalement les micro-membranes imperméables et respirantes dont on a parlé.
Donc on fait comment On les laisse sales ?
Le guide d'entretien qui est proposé est en fait beaucoup plus simple et paradoxalement beaucoup moins chronophage. Dans la grande majorité des cas, la boue fraîche, elle ne nécessite qu'un simple coup d'éponge humide.
Juste une éponge ?
Oui. Encore mieux et plus rapide, un petit passage du vêtement sous le pommeau de douche à l'eau tiède, on rince la boue et on laisse sécher sur un cintre dans la salle de bain.
Ah, c'est tout bête en fait. Mais et si vraiment, je sais pas, après plusieurs semaines d'utilisation intensive, il y a une odeur désagréable ou une saleté vraiment tenace qui impose un vrai lavage, on fait comment ?
Les règles sont alors extrêmement strictes. Si la machine s'impose vraiment, il faut utiliser une lessive très spéciale, conçue pour les vêtements techniques. Ensuite, il est impératif de bien fermer absolument tous les zips et de scratcher toutes les bandes velcro avant le lavage.
Pour ne pas que ça frotte pendant le tambour ?
Exactement. Pour éviter que ces éléments durs n'abrasent et ne déchirent les tissus de l'intérieur pendant la rotation. Et la règle d'or, mais vraiment absolue, bannir tout assouplissant.
Pourquoi ? L'assouplissant, ça sent bon pourtant.
Oui, mais l'assouplissant contient des agents chimiques qui viennent boucher irrémédiablement les pores microscopiques du tissu.
Oh !
La respirabilité si précieuse dont on parlait tout à l'heure, elle serait instantanément et définitivement détruite.
Ah ouais, donc fini l'évacuation de la sueur. Bon, on note 1, pas d'assouplissant. Et pour le séchage, on balance tout à sèche-linge ?
Surtout pas. Le séchage doit impérativement se faire à l'air libre et loin de toute source de chaleur directe. Donc on oublie aussi le radiateur brûlant.
D'accord, air libre.
Et enfin, le petit conseil de pro, on peut utiliser périodiquement un spray imperméabilisant. Ça permet de réactiver le traitement déperlant de surface du manteau qui s'use naturellement avec les frottements des branches ou des jeux.
C'est une véritable science de l'entretien, c'est fascinant. D'ailleurs, pour compléter un peu ce manuel du parfait explorateur sous la pluie, le texte répond à quelques questions très pragmatiques, une sorte de FAQ que tout le monde se pose.
Tout à fait.
L'une d'entre elles concerne l'âge idéal pour commencer ce type de sortie un peu intense. La recommandation de l'article est assez simple. Dès que la marche de l'enfant est stable et autonome, on peut se lancer.
En commençant doucement, bien sûr.
Oui. Il est conseillé de commencer par de toutes petites sessions d'initiation, genre de 15 à 20 minutes maximum, pour les habituer.
C'est suffisant pour un début.
Mais ça m'amène à une autre question cruciale. Comment savoir, avec une certitude absolue, si un enfant a froid pendant qu'il joue ? Le premier réflexe, c'est toujours de lui prendre les mains ou de lui toucher le bout du nez pour voir si c'est glacé.
Et c'est un réflexe super trompeur en réalité.
Vraiment ?
Oui, les extrémités qui sont exposées à l'air froid ambiant seront toujours fraîches au toucher, même si la température interne du corps de l'enfant est parfaitement maintenue.
Donc on vérifie comment ?
La technique imparable, celle qui est recommandée par les professionnels de la petite enfance, c'est de glisser deux doigts directement sur la nuque de l'enfant, juste sous le col du manteau.
Ah, la nuque !
C'est un indicateur thermique extrêmement fiable. Si la nuque est bien chaude et bien sèche, ça veut dire que le système des trois couches fonctionne à merveille et on peut continuer à jouer sans s'inquiéter.
Et dans le cas contraire ?
Si elle est froide, ou pire, si elle est à la fois froide et mouette de sueur, là, ça veut dire que la capacité de régulation thermique est complètement dépassée. Et dans ce cas, il faut impérativement rentrer se mettre au chaud.
C'est un super conseil, ça. La nuque, on retiendra. Et pour la toute dernière question pratique de cette FAQ, que faire quand, fatalement, l'eau est quand même passée par-dessus le bord de la botte et que l'intérieur est trempé ?
Ça arrive toujours.
Toujours. Et on a tous essayé de mettre les bottes à l'envers, en équilibre sur un radiateur brûlant, ce qui en général finit souvent par déformer ou faire fondre le caoutchouc.
Oh que oui.
La solution qui est proposée dans le texte, c'est vraiment celle de nos grands-parents. On retire les semelles intérieures de propreté, on bourre la botte avec de grosses boules de papier journal froissé et on change ce papier au bout de quelques heures. Le papier absorbe toute l'humidité sans endommager le matériau.
C'est infaillible. Et d'ailleurs, si on prend maintenant un peu de recul sur l'ensemble de toutes ces informations, il y a un thème sous-jacent très fort qui émerge de cette lecture.
Lequel ?
Ça concerne la charge mentale des adultes.
Ah, vaste sujet !
Oui, parce que gérer ce niveau de technicité vestimentaire, anticiper la météo à la minute près, assurer le nettoyage, le séchage minutieux sans abîmer le matériel dont on vient de parler, tout cela, ça demande une énergie d'organisation qui est vraiment considérable.
C'est clair. Et ça s'ajoute à une logistique familiale quotidienne qui, de base, est déjà bien complexe.
Exactement. L'article fait d'ailleurs référence aux défis très spécifiques des familles en garde partagée, via un de leurs guides dédiés. Et le texte mentionne que l'utilisation d'outils comme des applications gratuites d'agenda partagé, par exemple, ça permet de centraliser l'information pour alléger un peu cette pression.
Pour se libérer l'esprit, quoi.
Aujourd'hui, une planification extrêmement rigoureuse. Le but, c'est d'éviter que le stress de la logistique ne vienne gâcher le plaisir pur de l'expérience en pleine nature.
C'est une excellente synthèse. On réalise qu'il faut en fait beaucoup, beaucoup d'organisation pour permettre à la vraie spontanéité d'exister. En fin de compte, la conclusion de cette analyse remet vraiment les choses en perspective pour ceux qui nous écoutent.
Complètement.
La pluie n'est qu'une simple contrainte matérielle, de la physique élémentaire. Ce n'est absolument pas une fin en soi et ce n'est certainement pas une punition météorologique divine. Quand on maîtrise la règle des 10 000 Schmerber pour le manteau, qu'on applique la magie de la laine mérinos plutôt que le coton retenant l'eau et qu'on orchestre la fameuse technique de l'oignon, chaque petite tempête a le potentiel de se transformer en un formidable terrain d'apprentissage.
C'est l'essence même du message de cette publication. En habillant correctement un enfant pour affronter la pluie, on fait un acte éducatif très puissant. On ne se contente pas bêtement de le garder au sec.
On fait quoi alors ?
On lui montre concrètement qu'on ne fuit pas son environnement quand il devient soudainement inconfortable, mais qu'on s'y adapte de manière réfléchie et proactive. C'est une magnifique leçon pratique de résilience face à l'adversité naturelle. L'obstacle perçu, la grosse averse, est converti en une ressource, en un vaste terrain de jeu.
Cette idée d'adaptation proactive, c'est génial. Et ça m'amène à une toute dernière réflexion. Une réflexion qui dépasse, je crois, largement le cadre des bottes en caoutchouc et des flaques d'eau. On a bien vu à quel point cette préparation physique, qui forge la résilience chez les plus jeunes, changeait totalement la donne. Mais si on décidait d'importer cette célèbre philosophie du « il n'y a pas de mauvais temps que de mauvais vêtements » directement dans notre propre vie d'adulte.
C'est une métaphore très intéressante.
Imaginez l'impact si on appliquait cette méthode concrète à nos propres parcours professionnels ou personnels. Face aux inévitables obstacles, aux projets qui s'enlisent ou aux périodes de crise, on a souvent, nous aussi, le réflexe de s'enfermer et d'attendre sagement que la tempête passe.
En allumant la tablette, métaphoriquement.
Exactement. Et si, au lieu de subir ces saisons sombres, on prenait le temps de chercher notre propre équipement mental et stratégique ? De quel type de couche isolante ou de bouclier imperméable aurions-nous réellement besoin pour continuer à avancer, à explorer et même, qui sait, à trouver de la joie au beau milieu de nos propres intempéries ? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, la prochaine fois qu'un imprévu viendra bousculer nos plans. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie. À très vite pour une nouvelle analyse.